Bonjour, je suis Athénaïs Keller. Aujourd'hui, dans le titre à la une, la terrible découverte du crâne du petit Émile laisse place à de nombreuses interrogations. Un long travail de police judiciaire a débuté pour déterminer les circonstances de la mort du petit garçon de 2 ans et demi. Des dizaines d'enquêteurs continuent ce mardi 2 avril de passer au crible les environs du Haut-Vernay.
À bord de ces fourgons, deux brigades cynophiles de la gendarmerie de retour ce matin dans le secteur du Vernay. Déployés depuis hier pour retrouver les ossements manquants du petit Émile, ces chiens spécialisés dans la recherche de restes humains sont un renfort précieux pour les enquêteurs.
L'espoir de retrouver vivant le petit garçon s'est envolé 2 jours après la mise en situation organisée par les enquêteurs. Ce samedi 30 avril, des ossements du petit garçon disparu depuis le 8 juillet 2023 ont été retrouvés par une randonneuse. Elle marchait sur un sentier au sud du hameau du Haut-Vernay. Le secteur où se concentrent les recherches depuis la découverte du crâne est particulièrement difficile d'accès, à proximité d'un ravin avec des pentes très raides. Il faut imaginer une zone dense, avec des arbres, des ruisseaux, des rochers. C'est désormais une enquête très spécifique, très technique qui est en cours pour tenter de comprendre. La gendarmerie scientifique a fait appel à ses meilleurs experts. Pierre-Yves Bardy, commandant du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence.
C'est un travail extrêmement fin, extrêmement pointu. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait venir les meilleurs. On fait venir ceux qui ont une expertise la plus haute au niveau international. Et c'est ce qu'on possède grâce à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Pontoise.
L'IRCGN, donc, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, a fait appel à un éventail de spécialités, mais aussi à des moyens techniques colossaux. Après la découverte d'une partie des ossements du petit garçon, une équipe cynophile a été déployée sur place.
Et en particulier des chiens spécialisés dans les restes humains, la recherche de restes humains. Comme vous le savez, au sein de la gendarmerie nationale, nous avons tout un spectre très large d'équipes cynophiles, de spécialités, qui sont capables de chercher des stupéfiants, de l'armement, des billets. Et là, aujourd'hui, ce sont des équipes cynophiles de recherche de restes humains pour pouvoir apporter un complément aux enquêteurs.
Les chiens, une aide précieuse, essentielle même, pour retrouver le squelette de l'enfant. Plusieurs hypothèses sont étudiées. S'il est décédé accidentellement, par exemple, il a pu être déplacé par un animal. Si Émile est décédé à l'endroit où a été retrouvé son crâne, les enquêteurs vont tenter de comprendre quand et comment le garçon est mort. Et pour ça, ils ont figé la scène. Un membre de l'IRCGN explique la manière dont ils travaillent.
Nous avons fixé la scène, donc il s'agit de la création d'un double numérique de la scène. L'objectif, c'est de créer un double 3D numérique de la scène pour pouvoir la préserver et repositionner très précisément, donc de l'ordre du centimètre, tous les indices qui ont été prélevés. Ensuite, nous avons également assisté les recherches à l'aide de moyens spéciaux, donc notamment des caméras infrarouges, thermiques et multispectrales, qui permettent de détecter les choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu ou qui sont difficilement détectables.
Une reconstitution numérique peut donc aider à apporter des éléments de compréhension dans le décès du petit garçon. Le crâne et des dents de l'enfant ont été retrouvés dans la forêt. Des ossements qui se trouvent désormais à Pontoise, dans les locaux de l'IRCGN. Ils sont analysés pour tenter de comprendre, là encore, comment le petit garçon est décédé. Jacques Fonbonne, général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans.
Très clairement, à partir du crâne, je dirais qu'il faudrait beaucoup de chance pour qu'on arrive à déterminer une hypothèse criminelle. Il faudrait que l'on ait, par exemple, une marque dans l'os qui aurait été faite par une lame, par un couteau très effilé, ou que l'on ait une fracture qui ne soit pas compatible avec simplement la chute d'un petit garçon de 2 ans et demi, c'est-à-dire de 80 cm de haut.
Bernard Marc, médecin légiste.
On dispose par exemple de l'imagerie scanner pour pouvoir modéliser le crâne, pour pouvoir regarder à l'intérieur s'il existe des lésions, des éléments qui seraient en faveur d'une compression de la boîte crânienne par le cerveau, c'est un cerveau qui gonfle. Et puis il y a le revêtement extérieur, regarder si on est face à une lésion qui a été occasionnée après le décès sur un crâne qui aurait été remanié, ou bien s'il s'agit d'une petite fracture ou d'une lésion traumatique. Donc on va essayer d'éliminer tous les éléments traumatiques, de remodéliser en attendant d'autres pièces que les enquêteurs sont en train de rechercher au tamisage sur place.
Une constatation factuelle peut déjà être faite. Le squelette du petit Émile a été démembré. Mais comment, là encore, l'enquête devra tenter de l'expliquer.
La phonomie, c'est-à-dire d'animaux prédateurs qui se sont emparés de parties du corps et qui les ont déplacées. Est-ce que c'est dû aux intempéries? C'est évidemment une de ces hypothèses, parce que sinon on aurait trouvé le corps au même endroit.
Sur le terrain, dans la zone où a été retrouvé le crâne du petit garçon, il y a aussi des anthropologues. Mélanie Bertrand, journaliste police-justice de BFM TV.
C'est vrai qu'on a peu l'habitude d'en parler dans les enquêtes criminelles et pourtant leur rôle il est très important parce qu'ils participent clairement aux fouilles, ils sont sur le terrain et eux peuvent très rapidement dire par exemple si des os sont retrouvés, s'il s'agit d'os d'animaux ou d'os humains. Ils peuvent aussi étudier la végétation, ils sont sur les lieux de la découverte du crâne et ils peuvent lire la terre, c'est ce que nous disait hier une source proche de l'enquête, déterminer, inspecter la végétation.
Une médecin légiste, interrogée sur BFM TV, explique aussi qu'il est primordial de retrouver l'endroit exact où s'est décomposé le corps.
C'est important d'essayer de reconstituer la totalité du squelette et surtout d'essayer de trouver l'endroit où le squelette s'est formé, c'est-à-dire là où le corps s'est décomposé, parce que de cette façon-là, on aura une datation possible avec les escouades d'insectes.
Et justement, au sein de l'IRCGN évoluent aussi des entomologistes, ces spécialistes des insectes et des pollens. Ils pourraient être mis à contribution dans cette enquête hors normes.
Ce sont des spécialistes des insectes, et ça c'est très important, en cas de découverte de restes humains, ils pourront dire avec le type d'insecte qui se développe, pardon pour ces détails assez terribles, ça permettrait de dater la date de la mort du petit garçon, donc ce sont des spécialistes très pointus qui pourraient arriver dans les prochains jours.
L'examen des ossements pourrait prendre plusieurs mois, et rien ne garantit qu'une conclusion précise sera trouvée. Bonjour Sébastien Aguilar.
Bonjour.
Vous êtes policier scientifique, intervenant à l'École française des sciences criminelles. Vous êtes aussi fondateur de la plateforme de sciences criminelles forensiques et porte-parole du syndicat indépendant des agents du ministère de l'Intérieur, le SNIPAT. Depuis la découverte de ces ossements, il y a toutes sortes de spécialistes qui sont mobilisés, mais ce sont les gendarmes de l'IRCGN qui ont identifié le crâne d'Émile. L'IRCGN, ils étaient intervenus aussi, on s'en souvient, dans l'affaire Maëlys, notamment en 2017, ou encore dans celle de Delphine Jubillard en 2020. C'est toujours à eux qu'on fait appel en premier dans ce genre d'enquête?
Alors, pas forcément. Là, on est dans une zone rurale. Donc, en fait, c'est la zone gendarmerie qui est pris en compte. Donc, ce sont les gendarmes qui interviennent. Et donc, forcément, au niveau police scientifique, donc on a des spécialistes de la gendarmerie qui sont les TIC, donc les techniciens d'identification criminelle. Et ensuite, quand l'affaire est très complexe, comme c'est le cas dans cette affaire, ce sont les experts de l'IRCGN qui peuvent se déplacer sur place et déployer des moyens humains et matériels beaucoup plus importants.
Et alors, c'est quoi les premières étapes pour ces chercheurs quand on est face à une découverte pareille?
Alors là, la première étape, ça va être de fixer les lieux. Donc ça va être de prendre des photographies classiques, des photographies panoramiques, mais également aussi de numériser la scène. Alors on ne va pas parler de scène de crime, parce que déjà on ne sait pas si on est sur un accident ou une scène de crime, et surtout on ne sait pas si on est sur le lieu de découverte initiale. Et ensuite, on va avoir aussi l'utilisation de drones, c'est ce qu'on a vu avec la photogrammétrie, donc ça va être de prendre en compte cette large zone qui est l'endroit où a été découvert les ossements, pour pouvoir avoir cette scène en trois dimensions, pour pouvoir revenir dessus numériquement, pour pouvoir matérialiser les futures traces et indices qui pourraient être découvertes.
On se demande un peu comment est-ce qu'on va faire à partir d'une image en 3D pour aller trouver des indices. On aurait tendance à se dire que sur place, on serait plus à même de trouver des indices dans ce genre d'affaires-là. Qu'est-ce qu'on va regarder sur ces images reconstituées?
Déjà, on va utiliser donc plusieurs drones avec des caméras très haute définition. On a aussi des capteurs spécifiques donc, qui vont utiliser les infrarouges, des imageries multispectrales, pardon, et des capteurs thermographiques donc, qui peuvent donner des indications justement si on a des indices particuliers, si la Terre a été retournée à certains endroits. Donc, c'est des informations qui peuvent être extrêmement intéressantes pour les opérateurs qui sont sur place.
À ce propos, toutes ces techniques qui paraissent assez évoluées, est-ce que c'est les mêmes qui ont été utilisées, par exemple, pour Delphine Jubilar, ou est-ce que ça évolue constamment ?
Alors, ça évolue constamment, surtout sur l'utilisation, on va dire, d'appareils numériques. Après, la numérisation de scènes de crime a été utilisée par les gendarmes pour la première fois sur l'affaire de Chevaline. Donc on va dire qu'on a quand même une petite expérience derrière au niveau de numérisation 3D. Mais les appareils évoluent constamment et c'est surtout qu'on a une définition maintenant qui est extrêmement précise. Justement avec ces lasers, on arrive à aller jusqu'à quasiment 100-150 mètres à une définition du centimètre près.
On a un peu évoqué le fait que cette randonneuse qui ait trouvé ce crâne ait eu le réflexe de le prendre et de l'apporter à la gendarmerie. Alors on peut dire ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on ferait dans ce genre de situation, évidemment on n'a pas forcément les bons réflexes, mais qu'est-ce que ça peut changer qu'elle l'ait pris dans sa main, qu'elle ait en fait touché cette scène?
Alors déjà, ce qu'on peut avoir donc forcément, c'est de la contamination. Donc on peut retrouver donc l'ADN de cette personne sur les ossements qui ont été découverts. C'est contraignant parce que bon voilà, on a un élément qui est extrêmement important dans cette affaire-là qui a été contaminé. Mais on peut aussi le soustraire, parce qu'on va récupérer donc l'ADN de cette personne. Si on le retrouve sur les ossements, on va essayer, donc si, imaginons qu'on ait un ADN mélangé, on va soustraire l'ADN de la randonneuse pour essayer d'avoir un ADN autre. Là où je pense que ça peut être extrêmement compliqué, c'est que le fait de manipuler un objet, donc un, on va le contaminer, mais c'est surtout qu'on peut éventuellement effacer des traces qui sont déjà dessus. Donc ça va être toute la difficulté justement des équipes de l'IRCGN de pouvoir retrouver des traces qui potentiellement étaient présentes dessus, qui auraient été effacées par cette manipulation.
Ce que ça peut aussi un peu perturber, c'est le travail que font les chercheurs en général avec les insectes sur les scènes de découverte de corps.
Alors justement, c'est vrai que quand on trouve en fait un corps, surtout en extérieur, souvent il est colonisé donc, par des insectes qu'on appelle des insectes nécrophages. Et l'analyse de ces insectes, donc on appelle l'entomologie médico-légale, va permettre de déterminer ce qu'on appelle l'intervalle post-mortem, c'est-à-dire l'intervalle entre le moment de découverte et le moment des premières pontes des mouches sur le corps. Donc ça peut donner des indications extrêmement intéressantes pour les enquêteurs.
Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait nous aider à savoir si ces ossements ont été déplacés, par exemple, par un animal, par exemple?
Ça va être toute la difficulté de cette affaire parce que là, pour le coup, on a la découverte juste donc, d'un crâne. On n'est pas sûr donc, déjà de l'emplacement exact où a été retrouvé le crâne. Donc, ça va être le travail vraiment de fourmis des enquêteurs et surtout des spécialistes de l'IRCGN pour pouvoir retrouver, donc, non pas des insectes, parce qu'on n'a plus d'insectes, mais en fait, on va rechercher des pupes. Donc, les pupes, vous savez, c'est cette espèce de chrysalide, en fait. Entre la larve et la mouche, on a cette phase de pupe qui s'ouvre et donc on a la mouche qui sort. Et donc, on va avoir des pupes vides à un endroit. Et là où les experts vont avoir extrêmement de difficultés, c'est justement de savoir si, éventuellement, si on retrouve des pupes vides, est-ce que ça a un intérêt dans cette affaire-là ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est lié à la découverte du corps du petit Émile ? Ou est-ce que c'est, par exemple, un cadavre animal qu'on peut retrouver facilement en forêt ?
Est-ce que vous, dans votre expérience et dans votre connaissance de ce genre de faits divers, vous avez déjà été confronté à ce genre de scène, c'est-à-dire une seule partie des ossements découverts dans un endroit?
Alors, d'expérience, oui, ça m'est déjà arrivé. La difficulté, on va dire, dans le cas qui nous concerne, c'est justement la faune environnante. On est sur un petit corps, donc forcément des petits ossements, qui pourraient être récupérés par que ce soit des petits rongeurs ou des petits mammifères ou des plus grands mammifères. Donc on pourrait très bien imaginer des ossements qui soient un peu dispersés un petit peu partout et c'est toute la difficulté justement de cette affaire.
On a beaucoup parlé aussi du rôle des chiens depuis dimanche, mais aussi parce que cette zone, c'est une zone de chasse sur laquelle évoluent donc beaucoup de chiens de chasse. On a du mal à se dire que pendant tous ces mois, ces chiens aient pu passer à côté.
Effectivement, donc ça pose vraiment question justement sur les chiens pisteurs. Après, il faut faire attention, on est sur une zone qui est très accidentée. Le pistage donc, qui est fait par les chiens, ce n'est pas une science exacte. Le chien aurait pu très bien passer à côté. Ou après, on ne peut pas savoir si justement le crâne a été déplacé, il a été apporté là par un animal et en fait le reste du corps est ailleurs.
Finalement, le processus de recherche sur des ossements comme ceux-ci, donc un petit crâne d'enfant et quelques dents, ça peut prendre combien de temps selon vous? Quand est-ce qu'on saura définitivement tout ce que ces ossements peuvent nous révéler?
Alors déjà, ce qui est important de signaler, c'est que donc, dès que le crâne a été découvert, il a été immédiatement donc, transporté à l'IRCGN pour une analyse et surtout pour une identification par hélicoptère. Donc l'identification a été faite extrêmement rapidement, donc ce qui est vraiment important donc, pour pouvoir identifier formellement donc, l'identité de ces ossements. Donc forcément, on va avoir un collège d'experts qui va se réunir, donc médecins légistes, anthropologues, justement pour déterminer est-ce qu'on a des éléments, entre guillemets, intéressants sur ce crâne-là pour permettre de déterminer une éventuelle cause et circonstance de la mort.
Merci beaucoup, Sébastien Aguilar, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Et merci à Marie-Aimée pour le montage de cet épisode. Vous pouvez retrouver le titre à la une sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.